Saint François d'Assise, livre deuxième, l'évangéliste. Chapitre 1, les premiers disciples. Presso sum mani regis. Je suis le héros du grand roi. Cette réponse faite par François un jour d'avril de 1202 aux brigands des forêts du mont Subasio était devenue depuis lors à la fois le cri de guerre et la devise du jeune homme pour toute sa vie à venir. Mais ce n'est qu'après la messe de Saint Matthias à la Portioncule qu'il eut enfin nettement la notion de la manière dont cette tâche de héros aurait à être remplie. Et désormais, il n'hésita plus un moment à s'y consacrer. Aussi, durant les mois qui suivirent cette messe, les habitants d'Assise furent-ils témoins d'un spectacle curieux. Tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, sur les places ou par les rues de la ville, une figure se montrait. Vêtue d'un sarrau gris de paysan, un capuchon sur la tête et une corde autour du corps. Et tous ceux que rencontrait cet étrange vagabond, il les saluait des mots « Que le Seigneur vous donne la paix ». Et lorsqu'il apercevait un groupe d'hommes réunis, il allait vers eux, grimpait sur une marche de seuil ou sur une pierre, avec ses pieds nus, et se mettait à prêcher. Ce singulier vagabond, c'était le fils de Pierre de Bernardone, qui commençait ainsi son œuvre d'évangélisation. Ce qu'il disait était très simple et dépouillé d'artifice. En fait, il ne parlait que d'un seul sujet, à savoir de la paix comme du bien suprême, de la paix avec Dieu par l'observation de ses commandements, de la paix avec les hommes par des actions droites, de la paix avec soi-même par le témoignage d'une bonne conscience. Les éclats de rire qui, un an auparavant, accueillaient toutes les apparitions publiques de François dans sa ville natale, se trouvaient maintenant réduits au silence, surtout après la scène qui avait eu lieu au palais de l'évêque. Au lieu de se moquer du jeune homme, on l'écoutait désormais avec attention, même avec respect. Et les paroles qu'il disait n'étaient pas oubliées, mais tombaient comme des grains féconds dans maintes âmes prêtes à les recevoir. Dans maint cœur qui, sans en avoir conscience, aspirait profondément à resserrer le lien de sa communion avec Dieu. Et ainsi, il arriva que bientôt, François trouva des compagnons et des imitateurs. Le premier de tous, au dire de Celano, fut un homme simple et pieux d'Assise, mais dont le nom ne nous a pas été conservé, et dont la vie ultérieure nous est également inconnue. De telle sorte que l'honneur d'avoir été le premier disciple historiquement avéré de François appartiendra toujours au frère Bernard de Quintaval. Ce Bernard était un marchand, tout comme François, et vraisemblablement du même âge que lui. Cependant, il n'avait pas fait partie du même groupe mondain que le jeune fils de Pierre de Bernardone, et n'avait suivi que de loin les mémorables aventures de son jeune confrère. Et sans doute, il avait d'abord, ainsi que beaucoup d'autres, tenu la conversion de François et ses restaurations d'église une nouvelle fantaisie toute momentanée. Mais comme le temps s'écoulait et que François persistait à mener la vie qu'il s'était choisie, les soupçons de Bernard se changèrent en respect et son étonnement amusé en admiration. Lui-même probablement avait mené jusqu'alors une vie bien régulière, et bourgeoisement honorable. Ce qui le prit au cœur et l'entraîna vers François, ce fut ce sentiment que Sabatier appelle quelque part la nostalgie de la sainteté. Le feu sacré s'alluma en lui. Cet élan passionné au-delà du monde, qui est l'essence intime du christianisme, ce besoin d'abandonner les milliers des choses dont notre âme en vain s'inquiète et se préoccupe, pour ne plus rechercher que l'unique chose vraiment nécessaire. Il sentit mûrir au fond de son être peu à peu la résolution de suivre François, matériellement autant que moralement, de devenir pauvre comme lui. de se vêtir comme lui et de partager sa vie. Et de jour en jour, il eut plus passionnément le désir de se priver et de renoncer. Cependant, jamais encore, il ne s'était expliqué à François lui-même de ce changement intérieur. Mais il avait trouvé un confident, avec un esprit tout proche du sien, dans l'un des chanoines de la cathédrale, Saint Ruffin, Pierre Dei Catani, un laïc qui remplissait les fonctions de conseiller légal du chapitre d'Assise. Les légendes postérieures nous racontent comment Bernard, avant de s'associer définitivement avec François, imagina de se rendre compte, par une ruse, du plus ou moins de sérieux de la sainteté du jeune prédicateur. Plusieurs fois, il invita François à loger chez lui, ce que François accepta volontiers, d'où nous pouvons déduire qu'il ne possédait point à cette époque de 2000 fixes. Or, un soir, Bernard fit préparer pour son hôte un lit dans sa propre chambre à coucher où, d'après la coutume des maisons bourgeoises du temps, une lampe brûlait durant toute la nuit. Et voici ce que nous rapporte la Chronica 24 Generalium et les Fioretti. Avec le soin qu'il prenait toujours de cacher sa sainteté, Saint François, dès qu'il fut entré dans la chambre, se jeta sur le lit et feignit de dormir, et bientôt Bernard se coucha à son tour et s'évertua à ronfler très fort, comme s'il dormait profondément. Sur quoi le saint, qui croyait que Bernard dormait pour de bon, se leva de son lit et se mit à prier. Levant les yeux et les mains vers le ciel, il appelait avec un recueillement et une ardeur infinie « Mon Dieu et mon tout ». Et ainsi il continuait de prier et de pleurer amèrement jusqu'au matin. Et toujours il répétait « Mon Dieu et mon tout » et ne disait rien d'autre. Thomas de Celano, lui, nous fait un récit plus court, mais qui prouve bien que la relation sudite n'est pas dénuée de toute vérité. Bernard, nous dit-il, vit François durant la nuit bien plus occupé de prier que de dormir. Il entendit qu'il louait Dieu et la Sainte Vierge sa mère, si bien que le jour suivant, Bernard forma irrévocablement le projet de suivre François, et il lui exprima son souhait, d'abord sous la forme d'une demande de conseil pour un cas de conscience. Lorsqu'un homme a reçu de son maître un bien en dépôt, petit ou grand, et qu'il l'a gardé maintes années, mais qu'à présent il désire s'en défaire, quelle est pour lui, dans ces conditions, la meilleure conduite à tenir?
Il doit restituer le dépôt à celui dont il l'a reçu, répondit tout naturellement Saint François.
Mais mon frère, voici que moi, tout ce que je possède en fait de biens temporels, je l'ai reçu de mon Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et voici que je voudrais à présent le lui restituer. Comment me conseilles-tu de procéder pour cela? Alors François lui dit, « Ce que vous dites là, Sire Bernard, est une chose si grande et importante qu'il convient que nous demandions conseil là-dessus à notre Seigneur Jésus-Christ et le prions d'avoir la bonté de nous apprendre lui-même de quelle manière nous pourrons le mieux mener à fin une telle entreprise. Aussi, allons-nous dès ce matin nous rendre à l'église et lire dans le livre des Évangiles ce que le Seigneur a ordonné à ses disciples. Il est probable que Pierre Dei Catani sera survenu sur ces entrefaites. En tout cas, les trois hommes firent ensemble les quelques pas qui conduisaient en passant par le grand marché d'Assise à l'église Saint-Nicolas, située jadis à l'endroit où se trouve maintenant une caserne de carabiniers. Et quand ils furent entrés dans l'église et eurent prié en commun, François s'avança jusqu'à l'autel, y prit le gros livre dont le prêtre s'était servi pour célébrer sa messe, l'ouvrit au hasard et tomba sur les paroles suivantes. « Si tu veux devenir parfait, va ! Vends tout ce que tu possèdes et le donne aux pauvres, afin de t'acquérir ainsi un trésor dans le ciel. » Une seconde fois, il ouvrit au hasard le livre saint, et cette fois il lut. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Enfin,
une troisième interrogation amena pour réponse, et il leur défendit de rien emporter avec soi sur la route. Là-dessus, François ferma le livre, se tourna vers les deux hommes et leur dit « Frères, ceci est notre vie et notre règle, et pareillement, c'est ceci qui doit être la vie et la règle de tous ceux qui pourront désirer vivre avec nous. Allez donc, mes frères, et faites ce que vous venez d'entendre. » Alors, Bernard de Quintaval se rendit sur la place qui était devant l'église Saint-Georges, aujourd'hui la place Sainte-Claire, et se mit à distribuer tous ses biens aux pauvres. Et François se tenait près de lui, et frémissant de joie, louait Dieu dans son cœur. Car déjà, au lieu de Pierre de Bernardone, il avait pu se choisir un mendiant pour père. Et voici maintenant que Dieu lui envoyait un nouveau frère, bien meilleur que celui que la nature lui avait donné. Pendant que Bernard et François s'occupaient ainsi sur la place Saint-Georges et que Pierre dei Catani s'en était allé de son côté réunir ses biens pour les distribuer, vient à passer sur la place un prêtre à qui François avait acheté des pierres pour sa reconstruction de Saint-Damien. Ce prêtre nommé Sylvestre avait naguère, peut-être par égard pour la bonne intention, vendu les pierres à très bas prix. Mais ce jour-là, en voyant répandre tant d'or, il s'approcha et dit à François « Ces pierres que je t'ai vendues l'autre jour, tu me les as payées bien misérablement. » Alors François, furieux de la cupidité de ce serviteur de Dieu, saisit une poignée d'or, le dédain qu'éprouvaient pour ses biens les deux jeunes laïcs. Et dans son cœur, au-dessus de la vie qu'il avait menée jusque-là, il entendit retentir de plus en plus pressante la parole sacrée « Nul ne saurait servir deux maîtres », de telle sorte que quelque temps après, il allait venir lui aussi à François pour le prier de le recevoir au nombre des frères. Cependant, les trois nouveaux compagnons, unis dans un même désir de suivre le Christ, quittèrent Assise après y avoir mis toutes choses en ordre et passèrent la nuit ensemble à la Portioncule. Un peu plus tard, ils se construisissent dans le voisinage immédiat de cette église une hutte de branches crépies debout afin de pouvoir y coucher la nuit et y prier durant le jour. Ce fut là aussi qu'une semaine après la conversion de Bernard, un autre jeune homme d'Assise nommé Égide ou Gilles vint les trouver et leur demanda de se joindre à eux. La manière dont le riche Bernard et le savant juriste Pierre avaient distribué leurs biens n'avait pu manquer de produire un grand effet dans la ville entière et d'y devenir un sujet inépuisable d'entretien, aussi bien le jour sur les places que le soir à la veillée. Et c'était pendant une de ces veillées, devant un feu crépitant de branches d'olivier et de châtaigniers, car les soirées d'avril sont fraîches à Assise, qu'Égide avait entendu parler de François et de ses amis. Le lendemain matin, le jeune homme se leva très tôt, l'âme soucieuse de son salut, comme nous le disent les anciennes légendes. On était au 23 avril, fête du saint martyr Georges, et Égide se rendit d'abord à l'église Saint-Georges pour y entendre la messe. Après quoi, il suivit le sentier qui descendait à la Portioncule, sachant que François devait alors résider en cet endroit. Devant l'hôpital Saint-Sauveur des Murs, le chemin se divisait en deux. Égide, ignorant la route qu'il devait prendre, pria Dieu de l'inspirer dans son choix. Et sa prière fut exaucée, car après avoir marché quelque temps, il aperçut François qui sortait d'un petit bois. Aussitôt, il s'agenouilla devant lui et lui demanda la faveur d'être reçu dans la confrérie. Et François, ayant considéré le pieux visage du jeune homme, le releva tendrement et lui dit « Mon bien cher frère, voici que Dieu t'a accordé une grâce très grande. Car si l'empereur venait à Assise et choisissait l'un des citoyens de la ville pour être son chevalier ou son chambellan, certes, ce citoyen s'en réjouirait fort. Mais combien plus tu dois te réjouir, toi que Dieu a choisi pour son fidèle chevalier et serviteur, et appelé à pratiquer la sainte perfection évangélique. Puis, il le conduisit au lieu où se trouvaient les autres frères, et le leur présenta en ces termes. « Le Seigneur notre Dieu vient de nous envoyer un bon frère de plus. Réjouissons-nous donc dans le Seigneur, et mangeons ensemble en nous aimant. » Lorsque le repas fut fini, François et Gide remontèrent à Assise pour se procurer le drap qui allait servir à habiller le frère nouveau. En route, ils rencontrèrent une vieille femme qui leur demanda une aumône. Sur quoi François se retourna vers le frère Égide, le considéra avec le visage d'un ange et lui dit « Mon très cher frère, il faut que pour l'amour du Dieu, tu donnes ton manteau à cette pauvre femme. » Et le frère Égide tout de suite se dévêtit de son manteau luxueux qu'il donna à la femme. Et il lui sembla, d'après ce qu'il devait raconter plus tard, qu'il voyait cette aumône monter droit au ciel. Et lui-même, dans son cœur, éprouva un plaisir indicible. Les frères étaient maintenant réunis au nombre de quatre dans leur cabane de la Portioncule. Durant ces premières années, ils n'avaient pas besoin d'une véritable demeure fixe, car ils passaient la plupart de leur temps en tournée de mission. Ce que François d'abord avait fait seul, les quatre amis le faisaient à présent ensemble ou deux par deux. C'est ainsi qu'en compagnon, en compagnie d'Égide, qui très vite lui était devenu cher et qu'il aimait à appeler, par un souvenir de ses lectures de romans, son chevalier de la table ronde, il fit un voyage au-delà des frontières voisines, jusque dans la Marche d'Ancône, région comprise entre les Apennins et la mer Adriatique. À son retour, François eut le bonheur d'apprendre que trois nouveaux disciples étaient venus à lui, Sabatino, Morico et ce Jean qui devait ensuite être surnommé des Capella, Jean au chapeau, parce que, contrairement aux règles de l'ordre, il allait être le premier à se coiffer d'un chapeau au lieu d'un simple capuchon. Et de nouveau, tous les sept, ils se mirent en route. François ayant choisi cette fois pour but de la mission la vallée de Rieti dans les monts Sabins. En contraste avec l'éloquence officielle des gens d'église, les discours de François et de ses amis étaient infiniment simples et sans ornement. Les discours de François lui-même avaient plutôt le caractère d'exhortation que de sermons élaborés. C'étaient des paroles toutes dépouillées d'artifice, qui sortaient du cœur et allaient au cœur. Sa prédication revenait constamment sur ces trois points essentiels: craindre Dieu, aimer Dieu et se convertir du mal au bien. Et lorsque François avait achevé de parler, jamais le frère Égide ne manquait d'ajouter ingénument « Ce qu'il vous dit là, mes amis, c'est la vérité. Écoutez-le bien et faites comme il vous dit. » Partout, ces nouveaux prédicateurs en habit de paysans soulevaient la plus vive émotion. Maintes personnes estimaient qu'ils ressemblaient à des hommes sauvages et des femmes notamment s'enfuyaient en les voyant venir. D'autres personnes les abordaient et leur demandait de quel ordre ils faisaient partie, à quoi ils répondaient qu'ils ne constituaient aucun ordre, mais étaient seulement des hommes de la ville d'Assise qui faisaient pénitence. En tout cas, pénitents ou non, leur attitude n'avait rien de lugubre. Avec François à leur tête, qui chantait en français, ils ne cessaient point de louer Dieu joyeusement de sa grande bonté à leur endroit. Ayant abandonné beaucoup de choses, nous dit l'un des biographes, ils n'avaient point de peine à se réjouir infiniment. Et lorsque, pareil aux oiseaux du ciel, ils allaient sous le doux soleil printanier par les vignobles verdoyants de la Marche d'Ancône, ils ne pouvaient faire autre chose que de remercier le Tout-Puissant qui les avait délivrés de ces liens et de ces entraves où pâtissent et se débattent douloureusement ceux qui aiment le monde. Avant d'envoyer en mission ses six disciples, François les avait réunis autour de lui dans un bois voisin de la Portioncule, où ils avaient souvent coutume de venir prier. Suivant la manière qui lui était propre, pleine de douceur et cependant infiniment pénétrante,
il leur avait parlé de ce royaume de Dieu qu'ils auraient apporté aux hommes en leur enseignant à mépriser le monde, à renoncer aux biens terrestres et à dompter le corps. « Allez, mes bien-aimés, leur avait-il dit, et annoncez l'évangile de la paix et de la conversion. Soyez patients dans les épreuves. Répondez humblement à tous ceux qui vous interrogeront. Bénissez ceux qui vous persécuteront, et soyez reconnaissants à ceux qui vous traiteront injustement ou vous calomnieront. Car pour tout cela, grande sera votre récompense dans le ciel. Et ne vous inquiétez pas à la pensée que vous êtes des hommes illettrés, car ce n'est pas de votre propre part que vous prêcherez, mais l'Esprit de votre Père Céleste parlera par votre bouche. Et puis, vous pouvez être assurés de trouver bien des personnes croyantes, bonnes et pacifiques, qui accueilleront avec joie vos paroles et vous-même. Mais il est vrai que vous en trouverez d'autres, et en plus grand nombre, qui étant des ennemis de Dieu, vous résisteront et parleront contre vous. Préparez-vous donc à tout supporter humblement. » Cela dit, François les avait embrassés l'un après l'autre, comme une mère embrasse ses enfants. Les avait bénis et leur avait donné comme dernier viatique ces mots de l'Écriture sainte, « Rejette tous tes soucis sur le Seigneur. C'est lui qui se chargera de pourvoir à ton entretien. » Et ainsi les disciples, deux par deux, s'en étaient allés dans le monde, et lorsqu'ils passaient devant une église ou un crucifix, ou que seulement ils apercevaient un clocher d'église dans le lointain, ils s'agenouillaient dans la poussière de la route et récitaient la petite oraison que François leur avait apprise. « Nous t'adorons, Seigneur Christ, ici et dans toutes tes églises du monde entier, et nous te bénissons de nous avoir rachetés par ta sainte croix. » Pénétrait-il dans une de ces petites cités qui alors, comme aujourd'hui, se dressaient au sommet des montagnes avec leurs remparts et leurs tours? Il franchissait la porte et, arrivé sur la place du marché, s'arrêtait et commençait toujours par chanter l'hymne de louange que François leur avait également appris en ces termes. « Craignez et honorez Dieu, louez et célébrez Dieu, rendez grâce au Seigneur, au Tout-Puissant, et invoquez le Dieu triple et unique, le Père et Fils et le Saint-Esprit, le Créateur de toutes choses. Et convertissez-vous, et que votre conversion porte ses fruits, car il faut que vous sachiez que vous mourrez bientôt. Donnez, et il vous sera donné. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Mais que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, à vous non plus le Seigneur ne pardonnera point les vôtres. Confessez tous vos péchés, et bienheureux sont ceux qui meurent en état de conversion, car ils iront au royaume des cieux. Mais malheur à ceux qui ne mourront pas en état de conversion, car ils deviendront pour toujours les enfants.